Le 17 janvier 2009 s'est tenu à Arles un forum sur le thème « La décroissance, idéologie ou nécessité ». Cette rencontre réunissait l'Université populaire d'Arles, Attac Pays d'Arles, l'association Casseurs de Pub, la Confédération paysanne de Trènes, le Marais du Vignerat, l'association Oasis Carapa du Gard. Nous vous proposons d'écouter des extraits recueillis au cours de ces tables rondes et ainsi que les débats qui animèrent ce forum. Croissance et décroissance, des mots martelés mais usés et réduits. Paul Ariès, professeur, membre du collectif Casseurs de Pub et de la revue catholique Goliath, vous en propose ses définitions.
Bonjour et merci de votre présence. Nous disons souvent que la société va dans le mur et qu'il serait nécessaire non pas de revenir en arrière mais de faire un pas de côté. Je dirais pour cet après-midi, je vais commencer par vous regarder de côté, compte tenu de la disposition de la tribune. Les objecteurs de croissance ne sont ni des durs à espoir de faire grandir le gâteau. Et c'est là où nous tombons, heureusement ou malheureusement, sur le deuxième constat. Si 6 milliards d'humains vivaient comme nous, une seule planète Terre ne suffirait pas. Il en faudrait 3 si on adoptait les standards de vie d'un Français et presque 6 si nous avions les standards de vie d'un Américain. Quand on regarde le fonctionnement des ordinateurs, une famille classique avec 2 postes, 8 heures par jour, nous atteignons aussi le maximum d'émissions auxquelles nous avons droit. Il y a un chiffre fondamental qu'il faudrait inscrire au fronton de nos mairies à côté de la devise républicaine, c'est la quantité maximale de carbone que la Terre peut digérer chaque année. On sait que la planète ne peut pas digérer plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. C'est-à-dire que si on traduit toutes nos activités, le fait de se déplacer, de manger, d'avoir des loisirs en équivalent carbone, si on dépasse ce maximum de 3 milliards, il y a 2 solutions. Soit on prend sur la part des plus pauvres, soit on prend sur la part de ceux qui n'ont pas encore la parole, c'est-à-dire des générations à venir. Depuis les années 70, nous avons dépassé ce maximum. Nous en sommes aujourd'hui à presque 7 milliards de tonnes d'équivalent carbone. 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone pour 6 milliards d'humains, le calcul est vite fait. 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. Et 500 kilos d'équivalent carbone, c'est quoi? C'est par exemple un vol en avion aller-retour Paris-New York. C'est-à-dire si je prends une fois dans l'année l'avion, faut que j'arrête de manger. C'est 15 000 km par an en voiture. Mais quand je dis ça, je ne cherche à culpabiliser personne. Pour porter ce discours, je fais beaucoup plus de 15 000 km par an. Ça permet tout simplement de se rendre compte non seulement de l'ampleur du changement nécessaire, mais que la solution n'est pas de faire la même chose en moins. C'est pas en se serrant la ceinture un peu, beaucoup, passionnément, à la folie qu'on y arrivera. Autrement dit, la course à la croissance, qu'elle soit rouge, bleue, verte ou noire, n'est pas la solution. Ni pour les pays riches, ni même pour les pays pauvres qui devront inventer d'autres façons de satisfaire les besoins fondamentaux de l'humanité.
Un état des lieux cauchemardesque. Mais tenez bon, après cette introduction percutante, Paul Ariès nous propose des pistes pour sortir de l'impasse.
La grande question est donc de savoir ce qu'il faut produire pour quel type d'usage et de quelle façon. La décroissance n'est donc pas un discours écolo plus hard, plus dur que les autres, mais la tentative de penser l'articulation entre une série de grandes crises. La crise environnementale, sociale, politique, de la personne humaine, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Mais je crois qu'il est important de dire que la décroissance n'est pas un concept scientifique. Pas plus, mais pas moins que le développement durable. La décroissance, c'est un mot au but qui sert à décoloniser notre imaginaire, qui sert à désintoxiquer notamment la gauche de la croissance. Et je dirais que la décroissance se pense finalement comme une sorte de fonction de poil à gratter, d'empêcheur de développer ou de croître en rond, pour obliger de se poser un certain nombre de questions. Alors qu'est-ce que la décroissance n'est pas tout d'abord? La décroissance, ce n'est pas bien sûr la décroissance de tout pour tous. Il est évident que la décroissance concerne les trop croissants, les bouffis, de la croissance. La décroissance devra être sélective et équitable, mais en même temps on doit avoir le courage politique d'ajouter que cette décroissance sélective et équitable se fera nécessairement dans un contexte global de décroissance. Il va falloir apprendre à vivre beaucoup mieux avec beaucoup moins. La décroissance, ce n'est pas non plus le retour au passé. La société d'après le pétrole, ce n'est pas le retour à la caloche. C'est une société à réinventer. La décroissance, ce n'est pas faire la même chose en moins. pourrait être la décroissance? Déjà, la décroissance n'appartient à personne. C'est une mosaïque, c'est une auberge espagnole, où se côtoient le meilleur et le pire. C'est un chemin de crête qui peut effectivement permettre de réenchanter le monde en permettant de développer un nouveau projet politique, où la décroissance, comme tout autre courant, pourrait être récupérée, recyclée à une sauce qui n'est pas la nôtre. La décroissance, ça devrait être l'articulation de trois niveaux de résistance. Tout d'abord, la simplicité volontaire. Essayer, chacun à notre niveau, de vivre au maximum en conformité avec nos propres valeurs. Ça semble aller de soi, ça ne va pas de soi. Moi, j'appartiens à une tradition politique où on avait tendance à remettre au lendemain du grand soir le changement de nos modes de vie. Et comme le grand soir ressemblait souvent à des petits matins blêmes, on ne changeait pas grand-chose. Donc tout ce qu'on peut faire dès maintenant pour en finir avec la domination des uns sur les autres et de tous sur la planète est positif. Pour certains, ça passe par le renoncement à la voiture, par le fait de choisir de travailler à temps partiel. Mais si nous ne faisions que ça, ça serait doublement dangereux. Ça serait déjà dangereux parce que finalement, à quoi ça servirait d'être un certain nombre à se faire plaisir si on ne remet pas en cause les logiques économiques dominantes? Et puis par ailleurs, il y aura un deuxième danger. Ça serait de passer d'une posture politique à une posture moraliste. C'est vrai que parmi les objecteurs de croissance, certains jouent à plus décroissant que moi tu meurs. C'est pas de cette façon-là qu'on arrivera à créer une alternative. Nécessité donc d'un deuxième niveau, celui des expérimentations collectives. Tout ce que l'on peut faire dans les marges, dans les franges, voire au cœur de la société est essentiel. La deuxième table ronde de l'après-midi y est largement consacrée, qu'il s'agisse des AMAP, des services d'échange locaux, de la presse alternative, des coopératives de production, de distribution, de consommation. Mais là encore, on ne ferait que ça. Ça serait accepter la dualisation de la société. Et ça serait également sous-estimer la capacité de récupération du système. Prenons l'exemple de la bio. La bio, ça peut être la meilleure comme la pire des choses. La bio, c'est la meilleure des choses si derrière la défense de l'agriculture biologique, c'est la défense d'une agriculture de proximité, avec des circuits courts, une alimentation locale de saison. Mais la bio, c'est la pire des choses si c'est la recherche du produit le plus pur pour se purifier. Parce que cette idéologie alimentaire, c'est celle de la bio-industrie. Et c'est celle, bien sûr, que le Grenelle de l'environnement nous propose lorsqu'on parle de multiplier par 3 ou 4 la part de la bio. D'où nécessité d'un troisième niveau, qui est celui de l'ébauche d'un début de commencement de ce que pourrait être un nouveau projet politique. Si nous voulons effectivement être à la hauteur de l'histoire, il faut inventer un nouveau paradigme qui permette à la fois de concilier les contraintes environnementales, notre souci d'égalité, de justice sociale, de besoin de reconnaissance contre la société du mépris. Et cela ne peut se faire qu'en s'opposant à la tendance lourde de la société à la marchandisation, à la vénalisation. Et en faisant du combat pour la défense de la gratuité l'axe central de nos activités. D'où la nécessité de rappeler que la première des décroissances à souhaiter, c'est la décroissance des inégalités sociales. Et c'est la raison pour laquelle, à mes yeux, aujourd'hui, ce qu'il faut revendiquer, c'est l'adoption d'un revenu minimum inconditionnel couplé à un revenu maximal autorisé. Revenu minimum inconditionnel, il y a un débat sur le fait de savoir s'il faut l'appeler salaire socialisé, revenu universel d'existence. Mais je dirais que la question qu'il faut se poser, c'est souhaite-t-on effectivement en finir avec une société qui repose à la fois sur les forçats du travail et sur la forçat de la consommation, sur une société capitaliste dont la grande force est d'insécuriser les gens. Si nous voulons en finir avec cette société, nous devons sécuriser économiquement en apportant les moyens d'existence. Donc revenu universel couplé à un revenu maximal autorisé. Là où Sarkozy dit avec le bouclier fiscal au-dessus de 50% on prend rien, nous nous disons au-dessus d'un certain montant à définir collectivement on prend tout. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas entrer en décroissance si nous ne remettons pas en cause les inégalités sociales et les logiques économiques qui en sont responsables. Pour terminer, je dirais que cette révolution par la décroissance est bien sûr une révolution anthropologique. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas aller sans un changement de notre rapport au temps. Après un siècle de culte de la vitesse, il faut prôner le ralentissement sur le modèle de l'association internationale Slow Food, par opposition à Néfaste Food, sur le modèle du réseau international des villes lentes. Il faut prôner la relocalisation face à la mondialisation. Et puis, il faut aussi développer les autres facettes de notre personnalité. Pour conclure, je dirais qu'il me semble que trop souvent, nous sous-estimons encore les capacités des maîtres de ce monde à prétendre réguler cette crise et avancer effectivement vers ce qu'on appelle le capitalisme vert. Il est évident pour moi, comme pour Jean-Claude, que la décroissance concerne aussi le Sud. Donc penser les transitions, à nos yeux, effectivement, cette perspective d'un revenu garanti couplé à un revenu maximal est la façon d'amorcer le mécanisme vers une transition pour une rupture qualitative.
Pour Paul Ariès, les excès de notre société nous ont conduits au pied du mur. Pour relever le défi technologique et préserver la viabilité sur la Terre, nous n'avons d'autre choix que de réinventer une société.